Alors, c'est toujours une joie de pouvoir être ici devant. Je sais bien que les ci-devant vont leur couper la tête, hein, mais c'est pas comme ça. Ce matin, le Seigneur prépare les choses pour que nous les pratiquions. Et ce matin, je voulais vous entretenir de quelque chose, mais avant, je voulais vous rassurer de quelque chose. Souvent, quand on parle à quelqu'un ou qu'on parle d'une situation, on dit souvent: ah, tu sais, je ne suis pas plus saint qu'une telle. Hein. Je voudrais directement mettre les choses au point, comme j'ai fait avec une personne cette semaine qui m'a dit: oh, tu sais, je ne suis pas plus saint que cette personne-là. Je lui dis: tu sais, on est tous saints. Ceux qui sont en Christ sont saints. Donc, le Seigneur, nous l'avons chanté tout au long de ce matin, nous a rachetés, nous a sauvés, pour que nous puissions être ses enfants. Le nom de famille de Dieu, c'est saint. Et nous sommes ses enfants, nous sommes saints. Alors, quand on dit « je ne suis pas plus saint qu'un autre », c'est une formule que les gens utilisent. Disons plutôt « je ne suis pas plus parfaite qu'une telle personne hein, », quoique la perfection est encore autre chose. Mais n'utilisons pas le mot « saint » comme quand on dit « j'adore quelque chose ». Apprenons à mettre les mots correctement. La langue française est une langue riche, j'ai toujours entendu « riche hein, ». Donc, il y a assez de mots pour pouvoir donner un sens à chaque chose. Alors, je voulais, pendant que j'étais en train de penser à ce mot « saint », un jour, j'étais jeune à l'époque, et j'ai vu et j'ai entendu quelque chose qui m'a toujours marqué. Et même maintenant, en parlant, j'ai encore l'impression de voir la scène devant moi. J'ai vu des chrétiens, excusez hein, si j'utilise cette illustration, des chrétiens qui étaient en train de se chamailler. Ah, quelle belle église, hein, où des gens se tirent dans les papates. Hein. Et alors, il y en a un qui a dit à l'autre: bouge-toi de là, je suis plus saint que toi. Alors, cette notion de sainteté m'a toujours travaillé. J'étais pas chrétien à l'époque, hein, donc vous voyez que... Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il m'a confirmé que j'étais saint. Oh, j'ai pas d'auréole sur la tête, hein, j'ai déjà les cheveux blancs, c'est déjà pas mal. Hein. Mais il m'a confirmé que j'étais son enfant, que j'étais saint, que je devais apprendre toujours dans la sainteté à vivre près du Seigneur. Alors, si nous manquons de quelque chose, rapprochons-nous du Seigneur. Et n'ayons pas peur de chaque fois voir la croix devant nous. Tant que nous aurons la croix devant nous, nous serons dans le bon chemin. Nous n'aurons pas à tourner la tête ni à gauche ni à droite. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'église de Philippe, que je vous invite à lire dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 2 et 3. Voilà ce qui est écrit. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, cette épître, même ces phrases, puisque ça fait partie de l'épître de l'apôtre Paul, ont été écrites après, donc dans les années 63, après Jésus-Christ, alors que Paul était emprisonné. Paul était quelqu'un qui aimait recevoir des nouvelles de toutes les églises qu'il avait créées ou qu'il avait mis sur pied dans les villes. Et il apprend que deux sœurs dans l'église de Philippe sont en train de se chamailler. On ne sait pas pourquoi. Et Dieu merci, c'est mieux. Sinon, on pourrait identifier et dire à quelqu'un qui vit dans cette situation-là: attention, tu t'appelles Évodie ou Saint-Tiche? Il y a une autre traduction qui dit: je demande instamment à Évodie et je demande instamment à Saint-Tiche de revêtir les mêmes sentiments. le même esprit, d'être en harmonie et d'avoir la même vision dans le Seigneur. Et toi, fidèle compagnon de joug, je te supplie de les aider, elles qui se sont efforcées de combattre ensemble et en même temps pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, il arrive fréquemment que dans une église, dans une communauté, il y ait des gens qui apprennent plus de choses que d'autres. Et c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui aiment bien de s'instruire, il y en a qui aiment bien de savoir. Moi, je dis que je suis un puits de science, mais un puits sans fond, donc je n'ai jamais le temps de remplir. J'apprends toujours. J'aime bien apprendre. Mais jamais je vais faire étalage de mes connaissances. Si, j'aime bien de dire ce que je sais, mais je ne fais jamais une comparaison avec quelqu'un qui en sait moins. Au contraire, celui qui sait doit annoncer et enseigner à d'autres afin que les autres puissent arriver au même niveau. Donc si moi, qui ai appris quelque chose, je me sens supérieur à d'autres, je ne dois jamais écraser les autres. L'apôtre Paul, dans la même épître aux Philippiens, dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si moi je regarde quelqu'un d'autre et je lui dis, tu sais, ce que toi tu sais, je le sais depuis très longtemps, je dévalorise l'autre, alors que l'autre essaye d'avancer, de croître. Au contraire, je devrais lui dire, écoute, ce que tu sais, c'est très bien, mais continue à avancer, ne t'arrête pas, parce que la parole de Dieu nous enseigne à avancer. Il y a un dicton qui dit que celui qui n'avance pas, il recule. Alors si nous n'avançons pas dans la foi, si nous n'avançons pas dans la connaissance de la parole de Dieu, demandons-nous qui nous a dépassés. Est-ce que nous sommes restés en arrière? Ceux qui sont chrétiens, qui ont donné leur cœur il y a des années et des années, est-ce qu'ils sont plus qualifiés que les nouveaux? Ce n'est pas une question de qualification. C'est une question de mettre sa vie au service de Dieu. Vous savez, le mot « saint » que j'ai utilisé tout à l'heure veut dire « être mis à part pour le service de Dieu ». Si nous sommes des saints, ce que je crois que nous sommes tous ceux qui ont accepté le Seigneur, nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Est-ce que mon service est plus grand que l'autre? Et ça, c'est pas à moi juger. C'est pas à moi dire « ce que tu fais n'est pas bon ». Parce que qui est le maître d'œuvre? Qui est le maître de tout le monde? C'est Dieu. Donc si je dois faire quelque chose, c'est pas par ma propre volonté. C'est parce que Dieu me met des choses à cœur. Et j'ai l'occasion de pouvoir témoigner, quand je prends des gens dans ma voiture, de témoigner de l'amour de Dieu. Et peut-être d'aider les personnes qui sont en difficulté. De leur montrer que la solution, c'est de se mettre aux pieds du Seigneur. On a chanté tantôt, tout à l'heure, « prosterné devant toi ». Et nous étions tous debout. Hein? Mais je sais que le mot « prosterné » ne veut pas se dire « se coucher à plat ventre » et de dire « je m'écrase devant toi, Seigneur ». Le Seigneur n'a pas besoin de personnes qui sont couchées par terre. Il a besoin de personnes qui sont debout pour le servir. Allons avec la force que nous avons. Alors, le mot « évodie » signifie « parfumé ». Donc, nous sommes un parfum de bonne odeur. Nous sommes tous des évodies. Mais aussi, nous sommes des saintiches. Parce que saintiche veut dire « celle qui rencontre le destin ». Et le destin que Dieu a mis devant nous, c'est lui qui le dirige du moment où nous lui appartenons. Est-ce que nous en sommes conscients? Que notre vie ne nous appartient plus? Si nous avons décidé de mettre notre vie au service du Seigneur, il devient le Seigneur de tout. Au moment où vous commencez à partager les tâches que vous donnez à Dieu, en lui disant, quand je suis le dimanche matin, je veux bien te servir. De toute façon, on n'a pas autre chose à faire que de chanter et d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est pas là que le Seigneur veut vraiment se manifester. C'est quand nous sommes chez nous, quand nous vaquons nos occupations, quand nous sommes le plus faibles, Dieu veut être le plus fort en nous. Il veut que nous soyons des saintiches et des évodies. D'ailleurs, le thème, c'est marcher à deux. Donc, il faut que dans l'Église, nous apprenions à ne pas vivoter tout seul. Parce que c'est pas bon de faire un service seul, mais de le faire accompagné avec quelqu'un. Je ne parle pas forcément du conjoint, hein, mais quand on veut faire un travail dans l'Église, eh bien, on peut et on doit demander au Seigneur, qui veux-tu m'attacher pour que je puisse t'honorer comme un bon serviteur. Alors, il y a un proverbe africain que j'ai lu, hein, je ne le sais pas parce que je suis pas africain. Il dit, si on marche seul, on marche plus vite. Mais ensemble, on marche plus loin. Donc, si on marche seul, on va plus vite. Mais si on marche ensemble, on va plus loin. Parce que ça nous donne le temps de marcher au pas et au rythme de l'autre. Ça sert à rien dans la vie chrétienne de vouloir dépasser les uns les autres. Et c'est pas parce qu'on va faire 3 ans d'institut biblique ou en décentralisé ou quoi, qu'on sera plus avancé que les autres. Non, parce que c'est un moment de préparation que Dieu vous donne, personnellement, pour vous mettre au diapason avec le Seigneur. Et aussi pour qu'ils ont prié ensemble. Et moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui me réjouit. Vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un me dit, tu sais, j'ai prié pour toi. Parce que ça montre que des personnes ont vu quelque chose et ils veulent aider dans la prière. Un jour, j'avais reçu un ami missionnaire chez mes parents et c'était un conte. Pas un conte de fées, un vrai conte qui normalement devait avoir de la galette, et il a été déshérité parce qu'il était devenu chrétien. Et c'est un assistant social, hein, donc il avait le grade d'assistant social, mais il avait d'autres assistants sociaux sous ses ordres, et il avait décidé d'aller comme missionnaire au Niger. Et alors qu'il était revenu chez mes parents, moi j'étais jeune, j'avais même pas accepté le Seigneur dans ma vie, mais j'avais quand même une crainte de Dieu. Je priais, je disais Seigneur, bénis Léonard là au Niger, aide-le afin que quand il trouve des difficultés, eh bien qu'il puisse trouver aussi la solution. Et on était en train de se promener dans la cité. Et je lui dis, tu sais, Léonard, je vais dire quelque chose. Souvent, je prie pour toi. Et il m'a répondu, tu sais, moi, je le sens. Quand on prie pour quelqu'un, même si nous, on ne voit pas la personne, si on ne lui téléphone pas, Dieu réagit et fait agir la prière. Elle monte et elle redescend vers la personne et elle peut être bénie. Parce que quelqu'un d'autre pense à elle. Parce que aussi les sœurs et les frères puissent servir Dieu, le Seigneur, ensemble. Hein, on chante souvent ensemble, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons donner, etc. Mais quand on est dans le service, eh bien, quelquefois, on se dit, mais où est-ce qu'il est l'ensemble? Où est-ce qu'il est l'ensemble? Il brille par son absence. Quand nous avons commencé quelque chose avec le Seigneur, ou dans l'Église, ou avec l'Église, soyons certains que nous communiquons nos ambitions, nos désirs, et que nous demandions aux membres de l'Église de prier pour nous. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 9, il est écrit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Mais aussi, un autre passage dit, la corde à trois fils ne se rompt pas. Donc, il y a moi, il y a mon collègue et il y a Dieu. on forme un triangle, et le triangle est une force qui peut nous faire vaincre des choses que nous ne pourrions pas vaincre de nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un pour servir le Seigneur ensemble. Et aussi, le binôme permet un soutien spirituel mutuel. Pourquoi ? Parce que si je sais que quelqu'un prie pour moi, je me sens plus fort pour avancer dans le service du Seigneur. Souvent, quand je faisais du porte-à-porte dans les campagnes d'évangélisation, il y a très longtemps, on nous envoyait deux par deux. Un petit peu comme Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Alors on dit, oui, mais deux, c'est toujours le même qui parle. Hein? Mais non, parce que l'autre prie pour ce que Dieu veut montrer, ce que Dieu veut donner à la personne qui entend. Donc on n'est pas dans un amas de paroles, on est dans un ensemble. Et c'est ça qui est important. Si dans un service, on commence à se tirer les uns les autres en disant « moi je veux faire plus que toi », il y a un déséquilibre. Et l'équilibre, c'est avec le Seigneur. Le Seigneur veut que les uns avec les autres, nous puissions avancer. Et aussi le binôme, donc les deux personnes, permet d'entretenir le feu de l'esprit et se protéger les uns des autres, ou l'un de l'autre, ou l'un et l'autre. Hein? Le Saint-Esprit, il est dans celui qui annonce la parole, mais il est aussi dans la vie de celui qui prie pour l'autre. Si nous sommes animés par le Saint-Esprit, nous allons avancer, nous allons faire des choses invraisemblables, des choses que nous ne pourrions pas imaginer. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est parce qu'ils sont appelés à faire quelque chose qu'ils le font. Et c'est vrai, il faut faire les choses que Dieu vous met à cœur. Et il faut mettre votre tâche, il faut mettre toute votre ardeur, toute votre vigueur, tout ce que vous avez à votre disposition pour que le service du Seigneur soit le meilleur, qu'il soit le plus beau. L'apôtre Paul, quand il voit tous ces désordres avec Saint-Tiche et Élodie, il a estimé, donc dans Philippiens 2, 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi parvenir à mes besoins. » Pardon. Donc, il a estimé nécessaire d'envoyer quelqu'un pour mettre de l'ordre. Et c'est là qu'on voit que le rôle du pasteur, c'est aussi de mettre des gens au pied du mur et de dire, écoute, si ça ne va pas, je vais mettre sous discipline. C'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose voulu par Dieu. Quand quelque chose ne va pas entre deux personnes, eh bien, nous devrions en parler avec, premièrement avec le Seigneur, et puis avec le pasteur, ou avec un frère ou une sœur à qui nous faisons confiance et qui peuvent nous conseiller. Épaphrodite était un compagnon d'œuvre et de combat. Il avait vu toutes les embûches par lesquelles l'apôtre Paul était passé. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller à Rome et de me promener dans les fouilles archéologiques. Là. Et il y avait une maison, il était écrit que c'était la maison-prison de Pierre et Paul. Oui, je dis bien Pierre et Paul. Donc c'est là probablement que Paul était enchaîné. Donc on voyait toujours l'anneau dans lequel on mettait les chaînes. Hein. Et Paul, Pierre, on n'est pas tellement sûr, donc je ne vais pas parler de Pierre, puisque ça peut être une pierre d'achoppement, hein. Mais Paul était certainement dans cette geôle-là, hein. Et il était le seul à pouvoir recevoir de la visite. Parce que les prisons n'étaient pas comme celles qu'on peut connaître à Lantin, que j'ai visité. et dans lesquels je me suis promené, où il fallait une clé pour ouvrir les cellules, et on ne peut pas entrer dans deux cellules à la fois, hein. On n'entre que dans une, et gare à celui qui voudrait me suivre. Mais là, l'apôtre Paul avait la possibilité de recevoir des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Lui qui était prisonnier volontaire, hein, c'est lui qui a demandé pour être amené devant l'empereur pour pouvoir défendre sa foi. Et il était obligé d'avoir un soldat à ses côtés. Donc il y avait un soldat qui était de faction avec lui. Je ne vous dis pas, s'il n'était pas devenu chrétien, je ne sais pas ce qu'il aurait dû falloir faire. Mais Épaphrodite a été envoyé et il est allé à Philippe, à la ville de Philippe, dans l'église, et il a dit, nous devons travailler ensemble sous le même joug du Seigneur. Alors vous savez ce que c'est un joug, hein? On entend souvent, c'est un mot qui est sorti un peu du vocabulaire, puisque dans les villes, on n'a plus les mêmes notions que dans les campagnes, hein? Et on n'a plus maintenant les chevaux de trait qui labouraient les champs. Dieu merci, j'ai connu ça, cette période, hein? Mais un joug, c'est quelque chose, c'est un morceau de bois creusé qui permet de faire avancer les chevaux de même force, des chevaux, des bœufs, ça dépend, hein, de même force pour avancer. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre, sinon c'est déséquilibré et alors on tourne, hein, au lieu d'avancer tout droit. Et Jésus lui-même a dit, prenez mon joug sur vous, parce que mon joug est facile. Il est facile. Il ne pèse pas sur nos épaules. Il veut être à notre hauteur. Alors je pense aux grandes personnes et aux petites personnes, hein, qui doivent faire un travail pour le Seigneur. Mais ce n'est pas dans cette idée de grandeur, c'est dans l'idée d'avancer ensemble. Un chrétien n'est pas 1m80 ou 1m60. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la stature parfaite de Christ. C'est quelqu'un qui a reçu les dimensions idéales pour avancer avec son prochain. Lorsque Évodie et Saint-Tiche se sont convertis, elles ont accepté que le Seigneur fasse partie de leur vie. Et c'est une chose importante qu'elles aient pris une décision. Et Dieu, dans sa grande souveraineté, dans sa grande bonté, nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Notre espoir, notre espérance, c'est d'arriver jusque la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons, puisque quand nous avons reçu le Seigneur, nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ pour l'éternité. Et ça, c'est une chose importante que nous puissions savoir, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir les meilleurs dictionnaires bibliques, les meilleurs commentaires, les meilleurs livres qui parlent de n'importe quoi. Si nous n'avons pas le Seigneur dans notre cœur, c'est lettre morte. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Notre destinée est cachée en Christ. Il est le seul pour nous guider jour après jour en marchant à nos côtés. Sous le même joug, il veut que nous soyons toujours avec lui, que nous avancions. C'est même Jésus lui-même qui a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça ne veut pas dire maintenant que nous devons prendre la croix et commencer la journée avec la croix. Ça veut dire que toute notre journée, tous les problèmes, toutes les choses peut-être difficiles de notre journée, nous ne devons pas les laisser tomber, mais nous devons avancer en disant, Seigneur, tu vas m'aider à vaincre. Et en fin de journée, je pourrais dire, la journée a été dure, mais merci Seigneur parce que je l'ai passée avec toi. Alors, comme je l'ai dit au départ, je ne sais pas quelles sont les dissensions ou quelles tentations ou quelles tribulations ont pu disharmoniser, c'est dur, hein. Donc, il y a l'harmonie et il y a la disharmonie. Et la disharmonie, c'est la cacophonie. Parce que chacun va faire dans son coin ce qui lui semble bon. Et puis, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de blabla, et puis on n'avance pas. Le diable a essayé de mettre, et il a mis la discordance, mais je sais que c'est en étant ensemble, à l'unisson et avec passion, qu'elles auraient avancé avec le Seigneur. Mais elles avaient perdu leur communion avec le Seigneur. Pourquoi? À cause peut-être d'un problème banal. Peut-être que Évodie a mis les assiettes dans un sens, avec les fourchettes de mauvais côté, et que Saint-Tiche s'est énervé en disant, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans l'hôtellerie. Hein. Moi, j'ai fait 2 ans d'hôtellerie, je sais. Non. Avec amour, on doit pouvoir reprendre les uns les autres. Avec délicatesse. N'oublions pas que Dieu nous accueille. Il nous prend délicatement. Celui qui perd la communion divine perd la communion fraternelle. Et celui qui perd la communion fraternelle perd la communion avec Dieu. Essayons de voir ce que Dieu fait. Si Dieu unit quelque chose, l'homme n'a pas à désunir. L'homme ou la femme, je dis l'être humain, hein, n'a pas à désunir. Parce que il ne faut pas que l'Église ressemble à n'importe quoi. C'est le corps de Christ. Un corps bien coordonné. Un corps bien soudé. Imaginez qu'on vienne vous greffer une main et qu'on vous mette la main d'un voleur. Hein, qu'on vous greffe la main d'un voleur. Est-ce que pour ça vous allez devenir un voleur? Non, vous allez dompter, même si elle avait envie d'aller prendre quelque chose, vous lui diriez, non, tu n'as pas à le faire parce que maintenant tu es greffé sur ma vie. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Nous sommes greffés au corps de Christ et nous avons à nous être transformés comme le Seigneur veut que nous soyons transformés. Il y a toujours de l'espoir, hein, parce que quand nous avançons avec le Seigneur nous dit, tu es presque arrivé, mais il y a encore un petit chemin à faire. Dieu nous donne une journée à la fois, et je dirais même une seconde à la fois, parce que qui peut dire, je serai là ce soir. Donc une seconde que Dieu nous fait comme cadeau, jouissons-en au maximum. Sans nous critiquer les uns les autres, sans aller vers l'autre en disant « Toi, tu n'es rien, moi, je suis tout. » Nous avons à être un parfum de vie qui donne la vie. Vous savez qu'il y a des parfums mortuaires, hein? Et ça, c'est pas bon, parce que quand on va rendre visite dans une mortuaire, les fleurs sentent le renfermé, elles sentent, c'est pas la vie. Hein. Mais nous avons le droit d'être un parfum mis à part. Parce que Dieu a demandé à Moïse de préparer un parfum spécial. Alors je vais donner quelques plantes qui ont été prises pour ce parfum. On peut le voir dans le chapitre 30 de Exode. Hein. Il y a d'abord le cinnamon, qui est la cannelle. Alors la cannelle, le cinnamon, symbolise les prières qui montent à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Il y a aussi la myrrhe, qui est un symbole de la mort à soi-même. Donc, quand Jésus est né, il y a des mages, est venu apporter de la myrrhe. Dans notre service pour lui, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Il y a l'aloès, qui est symbole de la guérison. de la restauration que Dieu nous donne au sein même de nos combats. Il y a aussi le roseau aromatique, qui est un nard. Pas un nard, donc c'est N-A-R-D, donc c'est un extrait. Hein, qui est le symbole de notre flexibilité. Et aussi notre enracinement profond pour en Jésus. Pardon. Même lorsque la tempête fait rage, si nous sommes bien ancrés, nous pourrons résister. Je suppose que vous êtes comme moi, j'aime bien les photos de phares dans la mer. Est-ce que vous avez déjà vu ce phare balayé par une grande vague et malgré tout le phare reste debout? Pourquoi? Parce que le phare est construit sur le roc. La tempête ne peut pas l'emporter. Chaque fois que je parle de cela, j'ai toujours cette image à Ostend. Quand vous allez vers la digue, vers la plage, sur votre gauche, il y a un monument qui est un monument dédié aux marins. Et alors, ce qui m'a toujours frappé, chaque fois que je vais à Ostend, j'aime bien d'aller voir ce monument-là, parce qu'il me rappelle comment je dois vivre à travers ou face aux épreuves. On voit, même s'il n'y a pas de vent, on voit le marin qui est penché en avant avec le torse bombé. Il fait face au courant, donc aux difficultés de la mer avec le vent. Est-ce que nous sommes comme cela ou bien est-ce que nous nous cachons quand il y a une première tempête, quand il y a une première difficulté? Est-ce que nous nous cachons ou bien nous faisons face? Il y a aussi la casse qui est le symbole de la résurrection. Donc c'est une plante, la casse, et elle est le symbole de la résurrection, de la gloire divine et de la bonté du Christ, la beauté du Christ dans le ciel. Toutes ces senteurs devraient se mêler et se dégager de notre vie spirituelle, alors nous pourrons œuvrer ensemble pour le Maître. Tous ces parfums pris séparément ont une odeur spéciale, mais mis ensemble, ça fait un parfum qui était répandu devant le Seigneur, devant l'Éternel. Donc, Dieu savait, c'est le parfumeur par excellence. Et il a dit à Moïse, moi je veux sentir cela. Et il a donné les directives. Et Moïse a suivi ces directives, et le souverain sacrificateur, le grand prêtre, quand il entrait devant l'Éternel, il offrait ses parfums, et Dieu recevait ça comme une offrande agréable. Alors, comme Évodie et Saint-Tiche marchaient par deux, nous devons associer dans notre vie le parfum de Christ et la destinée qu'il a préparée pour nous. Si nous savons quelle est notre destination, si nous savons quel est notre travail, celui de témoigner aux autres que nous appartenons au Christ, engageons-nous afin que nous puissions être trouvés comme des ouvriers de qualité. Que Dieu qualifie lui-même. Ah, vous savez, les gens, ils aiment les étiquettes, ils aiment les grades. Mais le plus grand grade, c'est celui d'être sauvé. Amen.